Aujourd'hui, sœurs et frères, chers amis, lorsque vous aurez tout oublié de ce que je vais dire, souvenez-vous de ceci que la doctrine biblique sans l'amour conduit à des excès de légalisme peu fécond, alors que de l'autre côté, l'amour sans doctrine biblique conduit à une attitude sentimentale tout aussi féconde sur le plan spirituel. Et donc, à la fin, l'idéal pour chaque chrétien que nous sommes est de mélanger ces deux notions. Je vais revenir là-dessus et c'est par là que je vais conclure. Mais bien avant toute chose, je voudrais, n'est-ce pas, rassurer le Père Bernard et vous tous qui êtes là aujourd'hui, que je tâcherai de ne pas être long. Je sais que vous revenez des vacances, vous avez l'air fatigué et donc il faut qu'après la bas vous ayez le temps de vous reposer davantage. Demain est la rentrée. Donc mon Père, je ne serai pas long aujourd'hui. Et justement, l'un des grands défis que tout chrétien sérieux rencontrera dans sa marche avec Dieu est celui d'arriver à bien se positionner dans son rapport avec la parole de Dieu et l'amour de Dieu. Un jour ou l'autre, il lui arrivera de ne pas se savoir exactement comment réagir devant une situation délicate où son jugement pourrait avoir des conséquences périlleuses pour des gens concernés. Alors il se pose une question, que fera-t-il? Et malheureusement, il va faire face à une confusion. Nous vivons dans une génération qui aime redéfinir les fondements sur lesquels elle s'appuie. Ainsi, la signification de l'amour n'a plus tout à fait la même saveur que celle qui provient de la parole de Dieu. Selon Dieu, l'amour est avant tout un acte aux conséquences sacrificielles, alors que notre monde le considère plutôt comme un jeu de consommation mutuelle. Aimer, ce n'est plus donner sa vie pour l'autre, c'est consommer l'autre pour assouvir son propre appétit. Voilà pourquoi aujourd'hui, tant de chrétiens sont actuellement très confus quant à la définition qu'ils ont de l'amour. Pour certains, l'application littérale de la parole de Dieu manifeste un manque d'amour flagrant. Et pour d'autres, aimer les gens d'une manière un peu plus inconditionnelle leur semble un compromis douteux avec la parole de Dieu, en perdant la notion même de l'amour. Qu'est-ce que aimer? Je profite, n'est-ce pas, de l'autre, j'aime ce que je peux retirer de l'autre. Ça devient donc une relation muée par le simple intérêt. Et donc, il se pose une autre question, que choisir, la parole de Dieu ou même l'amour? Dans bien de cas où notre jugement est requis, nous nous retrouvons dans un dilemme éthique où nous croyons avoir à choisir entre l'application de la parole de Dieu et de l'autre côté, l'amour. En fait, nous opposons ces deux notions, pourtant autant bibliques que l'une que l'autre. Tout cela parce que nous ne savons plus ce qu'est l'amour devant Dieu. Et heureusement, Jésus nous donne une définition que Saint Jean nous rapporte par les propos que voici. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Jean chapitre 13, verset 14. En lisant donc attentivement ce verset, on réalise que Jésus nous donne la recette à suivre. Comme je vous ai aimé. Donc, pour découvrir ce qu'est l'amour, il nous suffit seulement d'observer Jésus aimer les gens, et ce, en lisant les quatre évangiles. Nous ne devons pas aimer sur notre manière adamique, mais selon le seul et unique modèle de Jésus. Et croyez-moi, sœurs et frères, on ne parle pas ici de la même chose, parce que beaucoup, justement, ont du mal à comprendre ce qu'est l'amour. Regardons un peu comment cela se manifeste dans nos foyers, dans le couple. Il y a de plus en plus de violence où les gens ont du mal à aimer. Il y a de plus en plus de violence, même si elle n'est pas physique, elle peut être verbale. On violente l'autre, on violente son conjoint par de simples paroles. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas encore à vivre l'amour comme Jésus nous l'enseigne. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Nous devons donc écouter la parole de Dieu et la mettre également en pratique. Saint Jacques nous le fait mieux comprendre dans la deuxième partie de son texte qui nous est donné comme deuxième lecture ce dimanche. Il dit ceci, je le cite, « Accueillez donc humblement la parole de Dieu semée en vous. Elle est capable de vous sauver. Mettez la parole en application, ne vous contentez pas de l'écouter, ce serait vous faire illusion. Devant Dieu notre Père, la manière pure et irréprochable de pratiquer la religion, c'est de venir en aide aux orphelins et aux veuves dans leur malheur et de se garder propre aux yeux du monde. » Et donc, sœurs et frères, nous arrivions à une simple question de symbiose. En Jésus, en effet, l'amour et la parole de Dieu sont unis dans une sorte de symbiose parfaite. Jamais Jésus ne fera de compromis avec sa parole, mais toujours il aimera les gens avec beaucoup de générosité. Et son amour est encore plus manifeste envers les pécheurs qu'il est envers les religieux de son temps. Et curieusement, ce ne sont pas ceux qui semblaient mériter davantage son approbation qui ont été blanchis de son amour, mais ceux qui ne la méritaient pas. Et ça nous fait donc constater qu'il y a, n'est-ce pas, déjà à l'époque de Jésus, certains légalistes, et aujourd'hui encore, nous en avons parmi les chrétiens, parmi les chrétiennes. Commençons par ceux du temps de Jésus, notamment les pharisiens. Les pharisiens, notons-le, faisaient partie de l'élite spirituelle et sociale de l'époque. Leur principal cheval de bataille était l'application stricte de la doctrine biblique telle que reconnue par le rabbinat du temps. Ils se tenaient éloignés du mal et des gens de mauvaise vie. Ils payaient scrupuleusement leurs dîmes et sondaient de façon profonde les Écritures avec minutie. Or, l'évangile de ce jour nous rapporte ce que Jésus, citant le prophète Isaïe, pensait d'eux. Vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. Il n'est pas certain, disons-le, que nous aurions été du même avis que Jésus si nous avions vécu à son époque. Je dis cela parce que les pharisiens étaient ce genre de personnes à qui on ne trouve rien à reprocher. Ils étaient des hommes les plus intègres aux yeux de Dieu. Ils respectaient à la lettre toutes les prescriptions données par Moïse dans la première lecture de ce jour. Et Moïse rappelle seulement ceci, « Vous n'ajouterez rien à ce que je vous ordonne et vous n'y enleverez rien, mais vous garderez les ordres du Seigneur, votre Dieu, tels que je vous les prescris. Vous les garderez, vous les mettrez en pratique. Ils seront votre sagesse et votre intelligence aux yeux de tous les peuples. » Les pharisiens, une fois encore, il faut le reconnaître, ont ce mérite de rester fidèles à la tradition des anciens. Marc nous le fait voir clairement à travers ces termes. Les pharisiens, en effet, comme tous les juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger, fidèles à la tradition des anciens. Et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau et ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d'autres pratiques, lavage de coupes, de cruches et de plats. Mais malheureusement, dans les faits, nous dit Jésus, ils étaient fils du diable. Et pourquoi étaient-ils fils du diable? Les pharisiens étaient fils du diable parce qu'ils portaient des fruits dignes du diable. Leur approche de l'étude de la parole de Dieu ne produisait pas le fruit recherché par le Seigneur, c'est-à-dire l'amour pour autrui, l'amour pour les gens, l'amour pour les autres. Au contraire, les pharisiens méprisaient ouvertement tout ce qui ne leur ressemblait pas. Or, le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance et bien d'autres choses encore. Si la parole de Dieu ne produit pas ses fruits dans nos vies, il se peut que nous soyons, nous aussi aujourd'hui, des légalistes, c'est-à-dire trop attachés à la doctrine et trop peu concernés par les gens, trop peu concernés par autrui, trop peu concernés par les autres. Nous ne voulons pas nous mêler de la vie des autres, nous ne voulons pas aller au secours de l'autre, nous ne voulons pas aider celui qui souffre à côté de nous. C'est exactement le reproche que Jésus fait aux pharisiens et c'est exactement le reproche qui peut nous être fait aujourd'hui. Alors, n'ayons pas peur de lui, n'ayons pas peur de l'autre, n'ayons pas peur du voisin, même si nous avons déjà passé 30 ans sans nous renseigner sur notre voisin, aujourd'hui, par la parole de Dieu, allons vers l'autre, allons vers autrui, allons vers celui qui souffre, parce qu'en allant vers lui, nous mettons en pratique la parole de Dieu. Et donc, je terminerai par là pour mon avis de ce jour. Apprenons, sœurs et frères, à mélanger les deux notions, le respect de la parole de Dieu et surtout la mise en pratique de cette parole par la pratique quotidienne de l'amour. Et peut-être à la fin de la messe, je n'aurai plus le temps de dire un mot. Je profite de cet instant pour exprimer ma profonde et sincère gratitude à toute la communauté paroissiale et surtout au père Bernard Clazen. Je suis rendu au terme de mon séjour ici à Ville d'Avray. Je suis parti du Cameroun juste pour le mois d'août et ce soir, je reprendrai la route pour le Cameroun. Mais je ne peux pas partir sans dire un merci sincère au père Bernard Clazen. Il m'a marqué dès le premier jour, le 5 août. Il m'a marqué pourquoi? Parce qu'il a pris de son temps pour venir m'attendre à l'aéroport. Nous avons eu sensiblement 2 heures de retard. Mais le père Clazen était là, il l'a attendu. Et moi, ça m'a beaucoup marqué parce que je ne connaissais pas Paris, je ne connaissais pas la France, je ne savais pas où commencer. Il était là à l'aéroport, il m'a attendu, il m'a conduit jusqu'à Ville d'Avray. Mais ce n'est pas tout. Dès que l'invitation a été signée, il a pris contact avec moi par les mails. Il m'écrivait tout le temps et moi, ça m'a beaucoup marqué. Et mon père, je vous dis merci pour l'accueil. Merci pour ce que vous avez fait pour moi pendant ce mois d'août. Vous avez, n'est-ce pas, dit aux chrétiens que j'arriverai. Vous prendrez votre vacances, votre congé, qui s'occupe de moi et je vous assure, ils l'ont fait. Ils se sont bien occupés de moi. Il y a eu de nombreuses invitations et je peux rentrer maintenant en sachant que en France, en général, et à Ville d'Avray en particulier, les hommes sont généreux, ils sont charitables, ils sont accueillants. Je me confie à vos prières, priez pour moi et surtout, si peut-être vous n'avez pas le temps de prier, souhaitez-moi, n'est-ce pas, de très bonnes choses. Je vous remercie.